Bienvenue dans ce cours Microsoft Virtual Academy dans lequel on parle des bases de Visual Studio. Pour rappel, c'est un cours qui s'adresse à des personnes qui n'ont jamais vu Visual Studio et qui ont envie de savoir ce qu'on peut faire avec, jusqu'où on peut aller et qui ont envie de manipuler un petit peu les différents outils qui composent la plateforme. Je m'appelle Étienne Margraff, je fais partie des évangélistes techniques de Microsoft France et vous pouvez me contacter sur Twitter en utilisant @emargraff comme c'est écrit sur votre écran. Donc on a déjà vu 4 modules différents à travers lesquels on a découvert ce qu'était Visual Studio, puis on a créé notre premier projet, on a utilisé le designer d'interface graphique également, on a vu comment on pouvait débugger le code pour essayer de comprendre comment il fonctionne ou de trouver l'origine d'une anomalie particulière. On a vu également comment aller un petit peu plus loin avec quelques trucs et astuces dans le module 4 et comment étendre Visual Studio en utilisant les extensions qui permettent de rajouter des plugins et Nuget pour utiliser des frameworks externes qui ne sont pas installés par défaut dans Visual Studio. On termine ce cours avec un dernier module dans lequel on va aborder un sujet un petit peu différent qui est le travail en équipe et qui va vous permettre d'avoir un début d'idée de ce qu'on peut faire avec un outil qui s'appelle Team Foundation Server pour pouvoir justement partager votre code, mais pas seulement votre code. Alors, depuis la version 2005 de Visual Studio, le moment où Visual Studio en fait est devenu une gamme de produits et pas uniquement un outil pour développeurs, est apparu un outil qui s'appelle Team Foundation Server. Le but de cet outil-là, on en avait parlé un petit peu pendant le premier module, c'est d'être la plateforme de collaboration pour les différents acteurs d'un projet. Donc dans un projet, en général, on va retrouver un développeur, on aura quelqu'un qui s'occupe du design, on aura quelqu'un qui va s'occuper de la base de données, les gens qui vont s'occuper de la mise en production, on a quelqu'un qui va gérer le projet potentiellement, qui peut être un chef de projet ou un Scrum Master si on est en Scrum par exemple, et qui aura ce rôle de maintenir toutes les informations à un seul endroit. Pour ça, donc on utilise TFS. Un des avantages de cette plateforme, c'est le lien qu'il y a entre tous les éléments. C'est-à-dire que le fonctionnement global, imaginons qu'on travaille en Scrum, c'est d'avoir des features qui sont ensuite découpées en cas d'utilisation, en user story. Ces user stories sont découpées en tâches à un moment donné de la vie du projet. Et ces tâches demandent en général à générer du code, à écrire du code. Donc moi, Étienne, je développe par rapport à une tâche que je me suis assignée, et quand j'ai terminé mon code, je vais l'associer à cette tâche donnée, et ce qui va permettre ensuite de savoir que cette ligne de code, la ligne numéro 27 dans le fichier 42.cs, correspond en fait à l'implémentation de telle tâche dans le cadre de telle user story qui correspondait à telle fonctionnalité, à telle feature. De la même manière, on a la possibilité de savoir que tel bug a été corrigé par une personne donnée et que cette personne, pour pouvoir corriger ce bug-là, a supprimé un fichier, en a rajouté un autre, a modifié cette ligne de code, a rajouté celle-là, etc., etc. L'objectif, c'est réellement de savoir à n'importe quel moment ce qui s'est passé et de très facilement pouvoir retracer tout ce qui s'est passé au niveau d'un projet. Donc, ça c'est TFS, ça existe depuis la version 2005, ça s'installe chez soi, sur un serveur ou sur une machine qui n'est pas forcément un serveur d'ailleurs, hein, ça peut être un Windows normal. Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec la maintenance de l'application, avec la mise à jour du produit, avec le backup des bases de données, avec le fait de l'ouvrir à l'extérieur, si vous travaillez avec des prestataires extérieurs ou si vous-même vous êtes prestataire et que vous avez envie de vous connecter au TFS de votre client, ou... voilà, donc toutes ces choses-là que vous n'avez pas forcément envie de gérer, Microsoft met à votre disposition une version de TFS qui est hébergée dans le cloud, dans Windows Azure, et qui dans Microsoft Azure, et qui permet d'avoir les mêmes fonctionnalités sans vous embêter de justement faire tous ces backups et toutes ces choses qui prennent un petit peu de temps. Donc l'idée, c'est vraiment, vous avez un compte live, vous vous connectez sur un site, vous créez une instance de TFS, c'est gratuit jusqu'à 5 utilisateurs, et ça prend vraiment très peu de temps à créer. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on voit comment ça fonctionne. Vous pourrez, comme ça, vous créer votre premier, votre Visual Studio Online, puisque c'est le nom de cette plateforme en ligne. Et on va créer notre premier projet à l'intérieur, et on va y mettre le code, tout simplement. On ne va pas rentrer trop dans les détails, juste pour que vous voyez un petit peu comment vous pouvez partager ce code. Alors, je vais dans mon navigateur web ici. Je me connecte à visualstudio.com dans un premier temps. Voilà, donc j'arrive sur ce site web, sur visualstudio.com. Vous avez ici un bouton qui s'appelle test gratuit de Visual Studio. Ici, et alors vous mettez, vous êtes déjà connecté avec un identifiant live. Là, j'ai créé un identifiant live spécialement pour le cours, mais vous mettez le vôtre, vous mettez votre nom, donc je vais mettre MVA TFS par exemple. Vous indiquez le pays dans lequel vous êtes, la France, et puis vous indiquez quelle extension vous voulez pour votre Visual Studio en ligne. L'URL sera votre extension, enfin votre nom. .visualstudio.com. Ça, on peut pas le changer par la suite. Donc réfléchissez bien à l'avance à ce que vous voulez. Là, on va mettre MVA TFS. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur la version qui vous intéresse pour celle que vous voulez tester justement et celle que vous voulez pouvoir utiliser. Ça va faire plusieurs choses. Ça va vous connecter à votre TFS, voilà, et ça va lancer le téléchargement d'une version d'évaluation de Visual Studio. Si vous en avez déjà une, comme c'est le cas pour moi, vous n'avez pas besoin d'aller récupérer, d'aller télécharger cette version-là. Quand vous arrivez sur votre site la première fois, on va zoomer un petit peu. Voilà, donc vous voyez ici l'URL, c'est mvatfs.visualstudio.com, c'est ce que je viens de choisir. Ça a pris à peu près 30 secondes à créer, hein, c'est très rapide. La première chose qu'on vous demande, c'est de créer votre premier projet. Parce qu'en fait, dans TFS, on a plusieurs projets. Dans Visual Studio Online, on peut en avoir plusieurs. Et globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un projet, c'est une application ou une solution sur laquelle travaillent une ou plusieurs équipes. Vous en avez potentiellement plusieurs de ces choses-là chez vous, donc peut-être que vous aurez besoin d'en créer plusieurs. Là, on va en créer un premier qu'on va appeler démo. Bon, moi, je vais l'appeler comme ça. Appelez-le comme vous voulez. Je peux lui donner une petite description si besoin. Donc MVA exemple, voilà. Et on choisit ensuite deux choses qui sont très importantes parce qu'on ne peut pas le modifier par la suite. Pour ce projet-là, on pourra en créer un autre qui est différent, mais ce projet va rester toujours comme ça. On a le choix entre le contrôle de code source, donc ce qui permet de partager le code entre les différents membres de l'équipe qu'on veut associer à ce projet-là, soit celui de TFS, donc le Team Foundation Version Control, ou alors Git. Donc l'idée, c'est que vous avez l'ensemble des fonctionnalités de TFS, qui est la gestion des bugs, la gestion des tâches, la gestion des exigences, la gestion de l'intégration continue avec un service de build qui sera hébergé dans le cloud, et toutes ces choses qui sont intéressantes dans TFS. Et vous avez la possibilité d'avoir ça, d'activer ça, soit pour le contrôle de code source de TFS, soit pour Git. C'est pas Git, ça se connecte pas du tout à GitHub, hein, c'est vraiment un Git qui tourne dans TFS. Et ça, d'ailleurs, pour information, si vous installez TFS chez vous, ou s'il est déjà installé chez vous, dans votre société, vous pouvez aussi, depuis la version 2013 de TFS, choisir d'avoir Git qui tournera à l'intérieur. Donc c'est vraiment juste la brique du contrôle de code source qui sera soit l'un, soit l'autre. Donc là, je vais choisir celui de TFS. Et ensuite, le deuxième choix qu'on doit faire, c'est le modèle de gestion de projet qu'on va utiliser. Donc il y en a plusieurs qui existent par défaut. Dans Visual Studio Online, on ne peut pas en ajouter de nouveaux. Si vous êtes en local, vous pouvez en créer de nouveaux et en ajouter de nouveaux. Qu'est-ce que ça va avoir comme incidence? Donc vous voyez ici, j'ai Scrum, Agile, qui est un peu plus générique que Scrum, mais pour gérer ses projets de manière agile, et CMMI, qui va plutôt être associé, en tout cas dans ce cas-là, à la gestion d'un projet un peu à l'ancienne, avec un cycle en V. Moi, je reste en général sur Scrum parce que ça correspond bien à ma manière de travailler, mais c'est à vous de voir ce qui vous intéresse le mieux. L'impact que ça a derrière, c'est la liste de tout ce qui est en dehors du code, enfin, en gros, tous les éléments qui sont en dehors du code. Donc, si j'utilise CMMI, je vais avoir des exigences. Avec des tâches, et une gestion de tâches sur laquelle j'aurai une date de début, une date de fin, des choses qu'on retrouve dans ce type de méthode de travail. Si je suis sur Scrum, là, ça ne va pas s'appeler des exigences, ça s'appellera plutôt des Product Backlog Items pour définir les éléments que je vais développer. Et on aura aussi des tâches, mais il n'y aura pas de date de début, de date de fin associée dessus, puisque c'est quelque chose qu'on ne fait pas en Scrum. En tout cas, on le gère d'une manière complètement différente. Donc voilà, ça a un impact sur ça. Le mieux pour connaître les différences, c'est de cliquer sur ce petit lien-là qui va vous donner plus d'informations, ou alors réellement le mieux, c'est de créer trois projets avec ces trois méthodes différentes, comme ça vous pouvez voir quelles sont les réelles différences entre ces différents éléments. Une fois qu'on a terminé ça, on clique sur créer son projet. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il va générer tout ce qu'il faut dans côté TFS et qui va nous créer toutes les informations qui sont bien. Pendant qu'il fait ça, on va aller dans Visual Studio. Et dans Visual Studio, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à ce serveur TFS. Donc pour pouvoir se connecter au serveur TFS, on va cliquer sur le menu, l'onglet Team Explorer qui est en bas à droite, normalement. On arrive sur cette page Team Explorer qu'on peut récupérer aussi ici dans Team et demander de se connecter à un projet particulier. Et ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur cette icône-là qui ressemble à une prise de courant qui permet de dire je veux me connecter à quelque chose. On clique sur Select Team Project ou quand vous n'avez pas encore de serveur TFS, vous avez le bouton pour vous connecter à un projet TFS. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre la configuration de vos différents serveurs et vous pouvez en ajouter un nouveau ici. Donc là, je clique sur Add, je rajoute un nouveau serveur et je vais taper simplement l'URL de mon serveur. Donc là, c'est mvatfs.visualstudio.com. Automatiquement, il me préconfigure tout. Je clique sur OK. Il va essayer de se connecter. Il va voir que mon identifiant courante peut ou pas se connecter. Donc là, je suis connecté avec mon vrai identifiant live, donc il ne le reconnaît pas directement. Si vous êtes connecté avec votre live que vous avez utilisé pour le créer, vous pourrez vous connecter tout de suite. Donc je vais utiliser mvatfs@outlook.fr. Et je tape le mot de passe. Je me connecte. Et je suis connecté à mon serveur. Et donc il va me retrouver une collection de projets. Donc ça c'est une notion un peu avancée de TFS. Et mon projet ici, que je peux sélectionner, a priori, il est créé. Donc si je viens là, j'ai bien accès à mon nouveau projet qui est créé. On me dit, voilà, vous pouvez ouvrir Visual Studio pour vous y connecter. Il y a plein de fenêtres qu'on peut fermer avec plein d'informations qui peuvent être intéressantes pour vous. Comment utiliser, comment gérer le travail, comment gérer le code, comment gérer la build, comment gérer les tests. Et donc, au final, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble, ces différents guides, c'est l'ensemble des fonctionnalités de Visual Studio Online. Qu'est-ce qu'on retrouve? Le code. Donc, on peut y accéder via l'interface web. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de code. Enfin, j'ai un répertoire qui est créé par défaut, mais sinon, je n'ai pas de code. Je vais retrouver l'historique de mon code et ce genre de choses. L'onglet Work qui me permet de gérer mon backlog. Donc là, j'ai choisi un projet agile. Donc j'ai mon backlog, mes features, mes backlog items qui correspondent à mes user stories. Je peux en ajouter de nouvelles. Donc par exemple, j'ai en tant que utilisateur de l'appli, je veux me connecter, par exemple. Là, donc après, c'est ce qu'on veut. Et on va pouvoir comme ça les ajouter la liste de ces informations-là. Je peux ensuite les affecter à des sprints directement dans l'outil. Et quand je vais dans mon sprint, je peux, pendant mon sprint planning par exemple, rajouter les différentes tâches qui vont me permettre de prendre en compte ce scénario d'utilisation. Je clique sur le plus et puis, bah, par exemple, au début, je vais devoir peut-être ajouter ce qu'il faut dans la base de données pour pouvoir se connecter. Peut-être que j'ai une seconde tâche qui va être ajouter l'interface graphique. Voilà. Et donc j'ajoute comme ça les différentes tâches et ça me permet par la suite d'avoir accès à un tableau, donc exactement de la même manière que qu'un tableau de post-it que j'aurai dans l'open space et qui va me permettre, ça fonctionne en tactile d'ailleurs, qui va me permettre d'effectuer mes drag and drop pour dire que bah tiens, je suis en train de travailler sur ça et je vais l'assigner à quelqu'un. Là, je me suis pas encore mis dans l'équipe donc je vois pas forcément mon utilisateur, mais je peux l'assigner à quelqu'un. Ça, c'est la partie gestion du travail. Quand on développe en équipe, on a envie de vérifier fréquemment la qualité de ce qu'on est en train de réaliser, de ce qu'on est en train de développer. Pour ça, on va faire de l'intégration continue. Ça dépasse largement le cadre du cours, mais en gros, ici, on aura la possibilité de voir tous les scripts d'intégration continue qu'on a prévus pour cette application-là. On peut les exécuter, on peut voir l'historique des exécutions qui ont eu lieu et les retrouver à cet endroit-là. Et j'ai une partie qui correspond au test, qui va permettre à un testeur fonctionnel de créer des plans de test. Donc là, il nous explique comment ça fonctionne. Il y a un petit guide qui nous explique le fonctionnement. On crée des plans de test, on crée des scénarios de test dans ces plans de test, avec les différentes étapes à réaliser manuellement pour tester l'application. Et on va les positionner là-dedans. Ça va nous permettre de générer des fiches de bugs automatiquement, avec des informations qui sont intéressantes, et d'assigner ces bugs au développeur qui les verra soit dans Work, soit dans Visual Studio. Dans Visual Studio, justement, je retrouve ces fonctionnalités-là. Donc j'ai My Work qui m'affichera tous mes items et tous les éléments qui sont associés à mon utilisateur, la liste des modifications de code que je suis en train de réaliser, l'explorateur du contrôle de code source. Donc si je clique dessus, je vois le code de tous les projets auxquels j'ai accès dans ce serveur-là. Donc là, je vois que j'ai ce code-là, et etc., etc. Si je vais donc justement sur mes modifications en attente, donc là j'en ai aucune. Une modification en attente, c'est quelque chose que je fais en local avant de ensuite le pousser sur le serveur. Donc ce qu'on va faire, on va faire quelque chose de très très simple. On va mapper ça quelque part. Donc je vais, parce que pour l'instant, je l'ai pas en local, ce répertoire-là. Donc je vais aller le mettre quelque part sur mon PC. Je clique là-dessus. Je vais lui dire de mettre ça dans C, deux points. Alors moi, je vais le mettre dans démo MVA. Voilà. je le map. Et en fait, donc il me demande si je veux le télécharger les éléments que je viens de mapper. Je lui dis que oui. Il me récupère ces fichiers par défaut là qui permettent de faire de l'intégration continue. Et il me les positionne en local dans ce répertoire ici. Voilà, donc je retrouve mes fichiers à l'intérieur. Maintenant, j'ai envie d'organiser un petit peu mon code avant de pouvoir le partager. Donc pour ça, je vais commencer par créer un répertoire à la racine de mon projet, que je vais appeler dev. Et dans ce répertoire-là, je vais mettre mon code et je vais l'ajouter au contrôleur de code source. Là, vous voyez qu'il y a un petit plus qui indique en fait, ce n'est pas encore sur le serveur, ce n'est pas visible. D'ailleurs, si je vais ici et que je vais dans code sur le site web, je ne vais pas voir encore ce répertoire-là. Il va falloir que je le valide, que je fasse un archivage, un check-in, pour que ça soit validé au niveau du serveur et visible par tout le monde, y compris sur le site web. Une fois que j'ai ce répertoire qui est disponible, je veux mettre ma solution à l'intérieur. Ce que vous avez normalement récupéré, vous pouvez récupérer le code qui est disponible avec le module. Vous prenez ce répertoire, vous le positionnez dans le répertoire dev que vous venez de créer, voilà. Et dans Visual Studio, vous allez dans Fichier, Ouvrir, un projet ou une solution, vous rendez dans ce répertoire. Donc là, j'avais mis C deux points démo MVA, voilà. Je vais dans Dev, je parcours ce répertoire-là, puisqu'en fait, il n'est pas encore marqué comme à ajouter dans TFS, mais je vais l'ouvrir. Je sauvegarde ce que j'avais fait jusque présent, oui. Et donc, à partir de l'explorateur de solutions, je peux faire un clic droit et demander d'ajouter cette solution au contrôleur de code source à l'endroit où elle est positionnée. C'est pour ça que c'est très important de d'abord créer ce répertoire, d'aller y mettre le code que je veux ajouter, et ensuite de faire cette opération. On ouvre la solution. On l'ajoute au contrôleur de code source, et du coup, vous allez voir qu'il y a une opération d'ajout qui est faite ici sur l'ensemble des fichiers et des sous-fichiers de cette solution. Une fois que j'ai terminé ça, je fais un clic droit là-dessus, et je lui dis que je veux l'archiver. Je vais faire un check-in de toutes les modifications que j'ai réalisées dans le contrôle de code source. Je clique sur ça. Là, j'ai l'ensemble des fichiers qui sont à ajouter. Je mets un petit commentaire, je vais mettre premier ajout. Je fais check-in, et là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend toutes mes modifications. Il les envoie sur le serveur, du coup il les enregistre sur le serveur TFS, ce qui fait qu'elles sont disponibles pour n'importe qui utilise le même serveur TFS dès que la modification sera terminée, le check-in sera terminé, et qu'on peut le voir également sur le site web ici. Donc si je rafraîchis mon interface, je vais voir apparaître à cet endroit-là mon répertoire dev, dans lequel j'ai mon MVA démo, et puis je retrouve tous mes fichiers qui sont disponibles là-dedans. À partir de là, je vais modifier mon code exactement de la même manière que ce que j'ai fait jusque présent. La seule petite différence, c'est que vous voyez ici que j'ai un petit cadenas qui m'indique que le fichier est dans le contrôle de code source, et que pour l'instant, personne n'est en train de modifier, et que je ne l'ai pas modifié en local. À partir du moment où je fais une modif, peu importe laquelle, donc même rajouter un chaîne de caractères, ça m'indique un retour chariot, ça m'indique que mon fichier est en cours de modification. Et je peux modifier plein de fichiers, les supprimer, les ajouter. Une fois que j'ai terminé, ça reste en local, mais une fois que j'ai terminé, quand je refais un check-in, ça va mettre à jour ça sur le serveur, et du coup, tout le monde pourra profiter de ces nouveautés. Donc si je fais ici source control check-in, je sauvegarde ce que j'ai réalisé, et que je fais une nouvelle version en commentaire. Voilà. Si je vais à cet endroit-là, que je vais sur mon répertoire dev, j'ai la possibilité de voir l'historique de ce qui s'est passé. Alors soit je fais par le répertoire et je clique sur History à cet endroit-là, soit j'ai la liste des modifications qui sont les change sets ici. Je vois bien que j'ai un premier ajout qui a été fait et une nouvelle version qui a été ajoutée par la suite. Si je clique dessus, je vois quels fichiers ont été pris en compte et je vois également qu'est-ce qui a été fait comme modification. Donc là, on se rend bien compte que cette modif, elle ne sert pas à grand-chose. Et dernière petite chose, et on va s'arrêter là-dessus, j'ai la possibilité de notifier la personne qui a fait cette modification que c'est pas forcément très bien ce qu'elle a fait. Et comme dans Word, ou peut-être que c'est même très bien, hein, mais comme dans Word, je peux mettre un commentaire dédié à cette modification-là précisément. Et là, je vais mettre ça sert à quoi. Et je fais entrer, et ça sauvegarde, et ça reste disponible, attaché à ça. Et le développeur qui a écrit ce code, en l'occurrence moi, peut être notifié par mail de chacune de ces informations, ce qui permet de faire de la relecture de code assez facilement, et du coup de prévenir les gens qu'on a une remarque à faire sur un morceau de code qui nous paraît un petit peu bizarre, en l'occurrence ici une ligne vide. On ne voit pas trop l'intérêt que ça peut apporter. Voilà, donc encore une fois, là c'est une introduction à ce qu'on peut faire avec cette plateforme. Il faut bien penser que c'est très simple à mettre en œuvre, c'est gratuit jusqu'à 5 utilisateurs, donc n'hésitez pas à au moins le lancer pour le découvrir et à voir ce que ça peut apporter à votre équipe. pour pouvoir travailler facilement ensemble et de manière un petit peu structurée.